Avertissement, avertissement.
Cette émission
peut contenir des infos.
Peut contenir des infos, votre rendez-vous hebdomadaire avec l'information. Ça commence à l'instant sur votre station de radio et c'est toujours un plaisir, mes chers amis, de vous retrouver et de retrouver également l'ami Sébastien Boucher. Comment vas-tu?
Très bien. Bonjour Simon, bonjour tout le monde.
T'as passé une bonne semaine?
Très belle semaine, très belle semaine. Mauvaise nouvelle, par contre, qu'il y a eu récemment concernant mes bons Canadiens de Montréal.
Ah,
un
ouais,
blessé hein? de taille. Oh là là, le joueur vedette qu'on attendait. Et je vais t'en parler aujourd'hui, justement, des Canadiens de Montréal, Simon.
OK, tu vas nous parler de ça dans le dernier bloc de l'émission.
Oui, monsieur. Et avec un peu l'histoire de cette grande équipe, cette grande franchise de sport.
Ben, en même temps, tu sais, quand tu vas faire la guerre, entre guillemets, faut pas que tu t'étonnes que de temps en temps, il y ait des blessés au combat, tu sais.
C'est clair. Ça fait mal, par contre, celui-là qu'on a cette année. Mais de se rappeler à quel point les Canadiens sont une grande équipe avec une grande histoire, dure à comparer, ça, je trouve ça très intéressant de l'aborder aujourd'hui.
OK, on va parler de ça dans le dernier bloc, on l'a dit. Dans quelques minutes, dans le deuxième segment de l'émission, on va rencontrer une journaliste et on va parler d'un sujet qui va piquer votre curiosité.
Oui, Madame Justine Dubrulle, on va parler d'apiculture urbaine, des abeilles en ville.
OK, wow!
Elle est journaliste, oui, pour le Franco en Alberta, puis pour Franco Presse aussi, Madame Dubrulle.
Elle a écrit un article là-dessus, alors on va parler de ça avec elle. C'est intéressant, l'apiculture urbaine. On avait reçu dans l'émission, la saison dernière, si je ne me trompe pas, une dame qui était venue nous parler des poules en ville,
oui.
L'élevage des poules en ville. Ben là, on va parler de l'apiculture, donc d'avoir des abeilles derrière la maison chez soi. Il y a des gens qui font ça. Dans le troisième bloc de l'émission, on reçoit M. Michel Gébrac. Il est l'auteur d'un livre, un essai, où il parle de l'histoire des métaux et leur rôle à travers le temps, de quelle façon est-ce que des empires se sont construits avec les métaux. C'est assez extraordinaire. On aura l'occasion de parler de ça. Mais d'abord, Sébastien Boucher, je veux que tu nous parles de ton premier sujet pour lancer cette émission-ci. Tu vas nous parler des oiseaux, si je ne me trompe pas, c'est ça, hein?
Oui, quand les oiseaux apprennent le chant d'une autre espèce.
Ah oui, il y a des oiseaux qui font ça, hein?
Eh oui, puis là, je vais te poser la question d'entrée de jeu. D'après toi, c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle si un oiseau apprend le chant d'une autre espèce?
J'aurais tendance à dire que c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça, c'est ma perception, je ne sais pas.
Et non, c'est signe que l'espèce va disparaître.
Pour vrai?
Ben oui, c'est une excessivement mauvaise nouvelle. Je vais te parler d'une sorte d'oiseau, d'une espèce d'oiseau qui sait ce qui est en train d'arriver et c'est signe que c'est la fin. La fin qui approche. C'est des chercheurs de l'Université nationale australienne qui avaient sorti une première étude là-dessus en 2021. Puis vous pouvez voir les différentes études dans Biological Sciences. Puis, c'est des oiseaux au bord de l'extinction qui oublient peu à peu leur chant. Et tu vas voir, c'est toute une histoire d'affaires de tuteurs. C'est une sorte d'oiseau, une espèce d'oiseau où c'est pas nécessairement leur papa qui leur apprend à chanter. C'est les méliphages régents. Est-ce que tu as déjà entendu parler de cette espèce?
Jamais entendu. J'ai des connaissances générales assez étendues, mais pas à ce point-là.
C'est des oiseaux qu'il y a seulement en Australie. Là.
Okay.
C'est vraiment une espèce de l'Australie. Et l'espèce se perd peu à peu. Et puis la cause, justement, c'est un déclin rapide de sa population qui lui fait oublier comment chanter pour assurer la survie de son espèce. Et je t'explique, il y a les cultures humaines comme celles d'autres espèces qui sont maintenues vivaces grâce aux interactions. On est là, puis ça prend des interactions parmi les congénères d'une espèce.
Ben ouais.
Puis le chant des oiseaux, c'est leur culture vocale. Les oiseaux chanteurs se familiarisent avec cette culture vocale au début de leur vie. Et c'est avec l'aide d'un tuteur. Une culture qui est fixée vers l'âge de 1 an à peu près. C'est des très jeunes oiseaux. Et les interactions sont d'importance capitale là-dedans pour l'apprentissage de cette forme de communication. Puis si le développement vocal serait compromis, par exemple, par des interactions peu fréquentes avec les tuteurs, parce que ça prend vraiment le tuteur approprié, eh bien, ça peut affecter le maintien de la culture vocale au niveau de la population d'oiseaux. Et là, c'est ce qui arrive. Le chant, c'est la clé de la reproduction et de la défense du territoire pour les oiseaux. Alors là, chez les méliphages régents, il y a seulement les mâles qui réalisent des chants complets. Et là, leurs petits-fils n'apprennent pas ça auprès de leur père parce que les mâles adultes ne chantent pas quand ils élèvent leur progéniture. Et là, ils chassent leurs petits avant de recommencer à chanter. Alors, tout le temps là, de l'éducation du petit, l'oiseau ne chante pas. Puis après ça, quand l'oiseau est prêt, bien, lui, il recommence à chanter. Alors, C'est des vieux mâles qui vont enseigner la bonne mélodie à chanter aux petits oiseaux quand ils ont quitté leurs parents. Mais là, ces vieux mâles, il faut les avoir, il faut les trouver hein, pour apprendre à chanter.
Ah oui, absolument.
Et puis, selon les données de l'Union internationale pour la conservation de la nature, ces mélifères régents sont en danger critique d'extinction et c'est à cause, ben, premièrement, de la destruction de leur habitat, puis en combinant les données qu'on a dans l'histoire, celles récoltées par des citoyens via la science participative, puis d'autres qui proviennent de la surveillance de l'espèce, bien, les chercheurs ont évalué le déclin de la population et sur leur champ, sur la complexité aussi du champ et de la reproduction. Alors, le fait que les petits oiseaux manquent de tuteurs, ça a créé un énorme problème et c'est signe que l'espèce va disparaître. Il y a beaucoup de mélifères régents qui en viennent à apprendre le chant d'une autre espèce parce qu'ils n'ont pas la bonne. Mais c'est ça qui arrive. Il finit par se fier sur une autre espèce d'oiseau, commence à le limiter et puis là, ça remet tout en question leur système à eux de reproduction.
OK. Et ça, c'est symptomatique du fait qu'il y ait des tuteurs, là, tu les appelais les tuteurs tantôt, qui disparaissent ou enfin, il n'y en a plus suffisamment. Puis c'est ça qui pousse ces jeunes oiseaux-là à apprendre le chant d'autres espèces. C'est ce qu'il faut comprendre.
Exactement. Ils essaient de bien faire. Ils finissent par avoir le mauvais tuteur. Il y a entre 200 et 400 mélifères régents qui sont encore présents à peu près dans le sud-est de l'Australie. C'est pas beaucoup, là.
Hey.
On parle de 200 à 400. Alors, les tuteurs se font rares, là, tu pourras comprendre.
Ben
puis
oui.
Ils se partagent un territoire qui est détérioré de 300 000 km². Donc là, beaucoup de jeunes mâles sont incapables de localiser à temps un tuteur pendant leur période d'apprentissage, qui est une période critique. Puis les auteurs de l'étude que j'ai lue soulignent un succès, donc très bas, de reproduction pour l'espèce. Et plus triste encore, c'est le fait qu'ils soient réduits à apprendre le chant d'une autre espèce. Parce qu'au début, toi, tu me dis, oui, bonne nouvelle, mais c'est ça, c'est tellement triste que l'oiseau chante le mauvais chant et puis ça fonctionne plus là pour se reproduire. Lui, il faut qu'il séduise sa propre espèce.
Je comprends.
Alors, les chants des mâles qui ont été enregistrés, si on regarde entre 1986 et 2011, étaient plus longs. Ils contenaient plus de syllabes que les chants contemporains. Une des explications possibles, c'est à cause qu'il n'y a pas beaucoup d'oiseaux. Une erreur faite par un individu, par exemple, pendant qu'il apprend, est recopiée par d'autres qui n'auront pas trouvé un meilleur tuteur. Puis la chanson qui est rendue mélangée, elle se répand au sein de l'espèce et peut conduire à une réduction de la reproduction. Les femelles évitent les mauvais chanteurs. Donc, ils recherchent vraiment c'est quelqu'un qui connaît le chant et puis les petits oiseaux ne sont pas en mesure de le faire. Alors, perte de culture du chant, un signe d'avertissement majeur que les mélifères régents sont au bord de l'extinction. On a encore beaucoup de choses à apprendre, par contre, sur la façon de les aider. On ne sait pas encore comment on peut faire, mais ça a été un article qui m'avait tellement surpris. J'ai trouvé ça profondément triste, mais en même temps, c'est ça. À première vue, hein?
Mais à première vue, tu sais, j'aurais tendance à dire, ben, les oiseaux sont en expansion, je ne sais pas trop, hein, ben, j'avais l'impression que c'était une bonne nouvelle, ben non, c'est une mauvaise nouvelle. Ben, c'est un peu comme nous autres, dans nos commissions scolaires ou dans nos écoles, on est en manque de professeurs.
Ben oui, ça, là, les élèves pourraient se tromper de
on est obligé d'embaucher des gens qui n'ont pas nécessairement les compétences ou qui n'ont pas la certification. Ben là, on voit que ça va même dans le domaine des oiseaux. Là, j'en ris, mais c'est loin d'être drôle.
Ben, c'est comique, mais l'analogie, mais si les jeunes à l'école, ouais, sont en voie d'extinction parce que ils n'ont pas les bons tuteurs.
Ouais. Je vais vous parler, moi, de l'eau, hein, l'eau froide et l'eau chaude. Et je vais vous dire pourquoi il faudrait mieux privilégier l'eau froide plutôt que l'eau chaude dans pratiquement toutes nos activités du quotidien.
Comme le lavage, le lavage à l'eau froide.
Ben c'est parce que, tu sais, on a tous nos raisons d'utiliser l'eau chaude. Hein? On a pris des habitudes, plus souvent qu'autrement, on lave les vêtements à l'eau chaude, on dit « Ah, ça lave mieux », puis
ben
tout
oui.
Ça. On prend une douche à l'eau chaude, je m'y accoule pas, là, je l'avoue, moi, c'est quasiment de l'eau bouillante, là, j'aime ça chaud, chaud, chaud. Mais ce qu'on considère comme normal, comme agréable ou même, dans une certaine mesure, comme souhaitable dans bien des cas, ce ne l'est pas forcément. Il y a le département de l'énergie américain qui affirme que l'eau chaude, c'est, tenez-vous bien, la deuxième plus grande dépense énergétique des foyers, l'eau chaude, après la température du bâtiment. C'est pas des farces, là.
Ça coûte si cher que ça, faire chauffer de l'eau.
Ouais, c'est la deuxième plus grande dépense énergétique des foyers après le chauffage et la climatisation, entre autres choses. On dit que l'eau chaude, c'est même 10 % de notre consommation totale d'énergie. C'est beaucoup, pensez-y. En plus des motivations écologiques, moi, je vous dirais qu'il y a d'autres raisons pour lesquelles on devrait opter pour l'eau froide. À titre d'exemple, 90 % de la consommation d'énergie d'une laveuse est consacrée au chauffage de l'eau. Mais si votre laveuse est certifiée Energy Star, et pas mal toutes les laveuses le sont de nos jours, pourriez tout à fait privilégier l'eau froide. Je vais vous dire, là, chez nous, là, c'est toujours de l'eau on tap, là. On chauffe pas. J'ai jamais lavé des vêtements à l'eau chaude. C'est toujours à l'eau froide. Et les détergents, de toute façon, maintenant, sont vraiment très bien conçus de telle façon qu'on n'a pas besoin à toute fin utile de laver à l'eau chaude. La grande majorité des détergents, là, des grandes marques, là, j'en nommerai pas faire de pub, mais ça fonctionne très, très bien à l'eau froide. Même qu'il y en a plusieurs qui disent, qui recommandent carrément de ne pas laver à l'eau chaude. Donc, pas d'eau chaude pour désinfecter ni pour éliminer le gras, à moins... Moi, évidemment, que vous soyez du genre à laver sans détergent à lessive. Là. Si vous lavez votre linge, pas de détergent, ben c'est clair qu'à l'eau froide, ça ne fera pas des chars. Là. Vous êtes peut-être mieux de continuer avec de l'eau chaude. Les douches, prends-tu des douches froides, toi?
Ben non, je trouve ça trop désagréable. Je trouve pas ça assez réconfortant. Ça me donne pas la joie d'aller dans la douche.
J'ai de la misère aussi, je l'avoue. Prendre des douches, sinon froides, disons moins chaudes en tout cas, ça a de grands avantages. D'abord, en privilégiant l'eau froide, ou disons, en privilégiant de l'eau, on va dire, tempérée, on passe beaucoup moins de temps, évidemment, sous la douche.
Oui.
Donc, forcément, on va consommer moins d'eau. L'autre raison également pour laquelle on devrait privilégier l'eau froide ou, disons, tempérée, là, je ne veux pas vous envoyer dans la douche glacée, c'est que l'eau froide est bien meilleure pour la peau. L'eau chaude a cette tendance à abîmer la peau. Hein. C'est su, c'est connu, c'est, ouais, c'est documenté chez certaines personnes en particulier. Les gens, par exemple, qui ont eczéma, psoriasis, les choses comme ça, fuyez l'eau trop chaude pour les soins du corps, privilégiez de l'eau un peu plus tempérée. Même chose pour le lave-vaisselle. Hein? On a l'impression que c'est obligatoire de rincer la vaisselle avant de la mettre dans le lave-vaisselle. Il y a beaucoup de gens qui font ça.
Hein? Oui, bien, enlever le plus gros.
Même chez les fabricants de lave-vaisselle, on ne recommande pas ou on dit « Pourquoi gaspiller de l'eau pour rincer la vaisselle? » sérieusement, on dit « Gratter simplement les restes de nourriture, ça suffit plus souvent qu'autrement à débarrasser la vaisselle du gros de la nourriture qui reste. » Et puis le lave-vaisselle, de toute façon, il va faire tout le travail à votre place. Tu sais, il y a des gens comme ça qui, avant de mettre la vaisselle pour la laver dans le lave-vaisselle, tu regardes l'assiette, puis comme t'as quasiment l'impression qu'elle a déjà été lavée. Alors, si on choisit quand même de rincer, utilisez simplement au moins de l'eau froide. Tu sais, allez pas faire vider à moitié de la tank à l'eau chaude pour rincer la vaisselle à l'eau chaude pour appeler ça la laver à l'eau chaude. Donc, pratiquement tous les lave-vaisselles modernes sont moins énergivores de toute façon que le lavage à la main. Et il y a une étude, et je vais conclure là-dessus, qui a été menée par des chercheurs de l'Université du Michigan, qui dit que c'est même plus économique et plus écologique de faire fonctionner un lave-vaisselle à moitié rempli plutôt que de laver la vaisselle à la main. Alors, voyez que utiliser de l'eau chaude, c'est pas toujours la meilleure chose à faire. Plus souvent qu'autrement, juste un peu d'eau froide, ça peut faire un bien fou à la planète, puis en même temps un bien fou aussi à notre portefeuille, parce qu'on l'a dit tantôt, ça coûte cher chauffer de l'eau.
On va essayer de se forcer puis de réduire la température de l'eau dans la douche.
On s'arrête pour une pause. On parle dans un instant avec Justine Dubrulle et il sera question d'apiculture urbaine. Restez là, c'est l'émission Peut contenir des infos.
Pour rester en contact avec Peut contenir des infos, abonnez-vous à notre page Facebook. Si vous avez des suggestions, des idées ou des questions à nous soumettre, écrivez-nous par courriel pcdi@radiorfa.com.
Celle qu'on reçoit maintenant à l'émission Peut contenir des infos, elle a signé un texte qui parut tout récemment dans le média franco-albertain Le Franco. Vous allez pouvoir également trouver les détails ou le lien sur francopresse.ca. C'est dans le cadre de l'initiative de journalisme local. Et Sébastien, c'est quoi au juste cette affaire-là?
Bien, ça va intéresser pas mal tout le monde et même peut-être piquer la curiosité de nos auditeurs un peu partout à travers le Canada parce qu'on va parler des abeilles.
Ah oui, les abeilles sont importantes, oui. Les abeilles, effectivement. Et on va parler plus précisément donc de l'apiculture urbaine. C'est une tendance éco-responsable. Hein? C'est le titre d'ailleurs de cet article dont on va parler. Et on l'a avec nous, la journaliste, l'auteur de ce texte-là. On en discute avec Justine Dubrulle, la journaliste en question. Bonjour Justine.
Bonjour.
Bonjour.
Justine, on a souvent l'impression que les ruches et les abeilles, on trouve ça de façon générale juste en campagne, dans les champs. Mais ce que vous nous dites et ce qu'on apprend dans votre article, c'est que l'apiculture, ça s'est transporté jusque dans les milieux urbains. Pourquoi on fait de l'agriculture urbaine au juste?
On fait de l'agriculture urbaine parce que c'est une tendance qui est quand même très importante. Les abeilles sont en train de mourir. Donc, il faut qu'on fasse quelque chose pour les sauver. Et puis, même si c'est d'être en ville et puis d'avoir une ruche, peut-être même deux, ça peut quand même aider un peu avec cette la population qui est en train de diminuer des abeilles. Donc, c'est un peu pour ça qu'on fait de l'apiculture urbaine. C'est pour maintenir nos abeilles mellifères et même les abeilles sauvages qui sont en déclin.
OK. Alors, donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que la raison première, c'est essentiellement pour des questions, on va dire, environnementales ou écologiques un petit peu. Là. C'est ça que vous nous dites.
Absolument. Je dirais aussi, l'apiculture urbaine, c'est pas comme ça qu'on va produire du miel, surtout pas des grandes quantités, peut-être des petites quantités. Mais donc, vraiment, pour faire de l'apiculture urbaine, il faut avoir la passion pour faire l'apiculture urbaine, la passion des abeilles. Mais il faut aussi, c'est ça, il faut comprendre que les abeilles font partie de notre écosystème et que elles sont très importantes. Donc, il faut faire des efforts pour les maintenir.
Il ne faudrait pas non plus avoir d'abeilles. Moi, ça me fait penser à un épisode de Black Mirror. Je ne sais pas si vous connaissez là, sur Netflix, mais il n'y a plus d'abeilles dans le monde, alors on fait des abeilles robots. dans affaire. Une affaire de fou. Mais c'est assez étonnant qu'on retrouve là, maintenant des abeilles partout, des ruches à des endroits, on va dire, insoupçonnés, comme il y en a eu à l'aéroport international d'Edmonton. Et je voudrais vous demander, Mme Dubrulle, d'où est venue l'idée de faire ça à Edmonton et comment ça a été mis en place?
Ben, je pense que l'idée, premièrement, c'est pas la première aéroport qui prend cette initiative. Je sais que il y a des aéroports en France qui ont fait la même chose, qui ont des ruches. Je pense que c'est principalement, de ce que je comprends, c'est pour vraiment faire passer le message que les abeilles font partie de notre écosystème et qu'elles sont très importantes. C'est un peu pour propager cette idée puis faire comprendre aux gens l'importance de l'apiculture au niveau de notre écosystème.
Là, c'est ça, l'aéroport international à Edmonton. Comment on a mis cette idée-là en place?
Elle a été mise en place par une compagnie qui s'appelle Alvéole. Donc, l'aéroport d'Edmonton est en collaboration avec cette compagnie Alvéole, qui est, je pense, de Montréal, mais qui fait des partenariats un peu partout dans le Canada. Et puis, donc, Alvéole et le Alberta Beekeeper Commission. Donc, ensemble, ils s'occupent un peu de cette ruche qu'ils ont placée. Ils ont aussi comme déterminé un apiculteur qui va aller s'occuper de cette ruche et aussi de la maison d'abeilles sauvages. Il ne faut pas oublier que, oui, il y a une ruche, mais il y a aussi une maison pour les pollinisateurs sauvages. Ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier parce que la population des abeilles mellifères, oui, est en déclin, mais aussi celle des abeilles sauvages.
On aurait l'impression à première vue que ce sont essentiellement des entreprises ou encore des organismes de militantisme écologique et tout ça là, qui pratiquent ce genre de choses-là, l'apiculture urbaine. Mais on lit dans votre article que c'est aussi possible pour les résidents. Puis il y en a d'ailleurs quand même pas mal de gens qui commencent à en faire, un loisir. Vous l'avez dit, là, on fait pas de la grosse business avec ça. Là, on se met pas à vendre du miel en quantité industrielle. Mais c'est quoi les défis de faire de l'apiculture en milieu urbain? Est-ce que ça ressemble un peu aux mêmes défis que si on fait ça dans un champ à la campagne?
Un peu. Après, c'est sûr que les défis sont peut-être les mêmes, mais sur une marge différente. Donc, bien sûr, les maladies, les pestes qui peuvent s'infiltrer dans les ruches, c'est un gros défi. C'est peut-être le plus gros défi des apiculteurs. Et puis, c'est quelque chose que tu peux pas éviter, que tu aies une ruche, que tu en aies 100. Il y a toujours la possibilité qu'il y ait des pestes, des maladies qui peuvent s'infiltrer dans les ruches. Donc, c'est très important pour un apiculteur urbain et pour un apiculteur rural, en fait, pour les deux, de faire des inspections très régulièrement de leurs ruches et puis de voir un peu la situation. Est-ce qu'il y a des mites? La varroa, c'est une des pires en ce moment, qui peut vraiment causer beaucoup de... qui peut vraiment affaiblir l'abeille, en fait. Et puis, elle peut détruire une colonie entière. Donc, c'est très important. C'est peut-être le plus gros défi en ce moment pour les apiculteurs. C'est les petites pestes et les maladies qui peuvent s'infiltrer dans les ruches. Et puis, que ce soit un apiculteur urbain ou rural, ça, c'est un très gros défi. C'est très important, en fait, de faire des inspections régulières.
Je voudrais savoir, Justine, si quelqu'un veut se lancer dans l'apiculture là, à la maison, dans son quartier, c'est pas simplement, j'imagine, s'acheter une ruche ou deux ruches, puis se lancer comme ça. J'imagine qu'il y a des procédures, un peu comme ils ont fait en Alberta. Par quoi faut passer pour être prêt à se lancer dans l'apiculture à la maison?
Il y a des procédures, ça peut être un peu long, ça peut paraître un peu long pour les personnes qui veulent s'y lancer, mais personnellement, je pense qu'elles sont quand même très importantes parce que c'est pas, comme je venais de le dire tout à l'heure, c'est pas juste de s'acheter une ruche, de trouver des abeilles, de se trouver une reine et puis de les maintenir en vie, c'est aussi de faire sûr qu'il n'y a pas de maladie. Puis si on ne connaît pas trop là-dedans, c'est difficile, en fait. Donc, il faut suivre des procédures. La ville, chaque ville a peut-être des procédures un peu différentes, mais pour la ville d'Edmonton, par exemple, il faut premièrement aller sur le site de la ville et puis s'informer des procédures. Tout est énuméré sur le site de la ville, donc c'est quand même assez clair. Par contre, il y a beaucoup d'étapes, donc c'est peut-être un peu ça qui décourage certaines personnes. Mais c'est possible, c'est difficile, mais c'est possible. Donc là, je me souviens pas exactement de toutes les étapes, mais elles sont toutes énumérées sur le site de la ville. Et puis chaque ville a des procédures un peu différentes. Je sais que il y a une formation à suivre avant d'avoir une ruche. Et cette formation, justement, je pense qu'elle prépare bien les apiculteurs pour les maladies qui pourraient potentiellement s'infiltrer dans les ruches.
Oui, on comprend bien qu'on peut s'en faire un hobby, mais ça va quand même demander un peu d'ouvrage. Là. C'est presque parcours du combattant que simplement un passe-temps là, qu'on fait ça à la va comme je te pousse. Mais heureusement, il y a des organisations qui font la promotion de l'élevage des abeilles mellifères. Vous en avez parlé de quelques-unes. Parlez-nous un peu de ces gens que vous avez rencontrés. Qu'est-ce qu'ils font juste comme démarche pour promouvoir cette activité-là de l'apiculture urbaine? Est-ce qu'ils ont des sites web? Est-ce qu'ils font des conférences? Parlez-nous un peu de ces gens-là.
Ben, j'ai parlé avec une femme qui s'appelle Jocelyne Crocker, et puis elle est membre de l'association Yeg Bees. Puis cette association-là, en fait, le but, c'est de promouvoir un peu l'apiculture urbaine et puis de la rendre un peu plus accessible pour les résidents de la ville d'Edmonton. Je pense qu'ils se concentrent principalement sur la ville d'Edmonton parce que c'est là qu'ils sont situés. Mais ils sont très, très passionnés sur ce sujet, et puis ils veulent rendre un peu plus accessible l'apiculture urbaine. Je pense qu'ils collaborent avec la Alberta Beekeepers Association ou Commission, si je me trompe pas. Mais pour le rendre un peu plus accessible, ils collaborent avec des associations.
On peut dire un beau bravo à la ville d'Edmonton pour être avant-gardiste. Hein, c'est vraiment de premier plan là, ce qu'ils font. Ça va vraiment aider. Et j'aimerais, en terminant, Madame Dubrulle, une suggestion, si jamais il y en a qui nous ont écoutés et qui se sont dit « Bon, je trouve ça intéressant, je songerais à essayer l'apiculture urbaine », une suggestion que vous pourriez leur faire aux gens auxquels on aurait piqué la curiosité?
Ben moi, ma première suggestion, c'est sûr que c'est drôle un peu que vous me parliez à ce sujet-là, parce que mon mari est apiculteur rural, mais nous, on vit dans une région rurale, donc c'est un peu au niveau commercial qu'on fait l'apiculture, mais moi, je dirais, le conseil que j'aurais à donner, c'est aux gens qui s'intéressent à l'apiculture urbaine, c'est vraiment de faire leurs recherches avant de se lancer là-dedans, puis de vraiment faire sûr que s'ils s'embarquent dans le projet, de contrôler les pestes, de contrôler les maladies, c'est très important pour tout le monde.
Ça peut laisser des séquelles par la suite, ouais, c'est ça, si c'est mal fait, hein.
Exactement, si c'est mal fait ou si il y a toujours des erreurs. Écoute, on apprend tout le temps en apiculture, on peut pas tout connaître, mais si la personne qui a une ruche fait des inspections très souvent, alors il y a moins de chances qu'on fasse des erreurs. Donc c'est vraiment ça, il faut apprendre à faire l'apiculture avec l'information qu'on a, et puis essayer de vraiment maintenir les abeilles en santé, puis d'assurer que c'est ça, que les reines sont fortes, qu'elles produisent des abeilles fortes, qui peuvent potentiellement avoir une tolérance à ces pestes. Comme ça, on utilise un peu moins d'antibiotiques ou de produits pour tuer les pestes et les maladies.
Eh bien, à la conclusion de cette entrevue-là, si certains d'entre vous pensiez que c'était l'apiculture urbaine, c'était que d'installer à la maison chez soi, derrière sa cour ou sur le côté, une ruche ou deux avec des abeilles, puis on laissait ça là, puis ils faisaient leur petit ouvrage, on est en train de se rendre compte au final, Justine, que ça demande un petit peu plus d'ouvrage que ça. Là. C'est ce qu'il faut comprendre finalement. Hein?
Oui, c'est ça. Ça demande un peu de travail, mais comme je l'ai dit plus tôt, puis comme un de mes intervenants dans l'article l'a très bien dit, il faut avoir la passion, il faut être passionné, il faut soit vraiment avoir ça à cœur, l'équilibre de notre écosystème ou bien la survie des abeilles en général, je pense, pour entreprendre ce projet d'avoir une ruche ou deux dans notre cour, parce que c'est ça, c'est un engagement. Et puis, il faut pas oublier que en premier, il faut prioriser la santé des abeilles.
C'est bien, c'est un engagement pour les abeilles, mais c'est un engagement aussi pour l'écologie, pour la planète de façon générale. C'est vraiment, vraiment intéressant.
Ben,
chapeau à ces gens-là qui font ce genre de choses-là, parce que les abeilles, on en entend parler depuis quelques années. On voit que leur survie est de plus en plus menacée. Lisez cet article, vraiment, vraiment, vraiment bon. C'est dans Le Franco, c'est dans francopresse.ca également. Ça a pour titre « L'apiculture urbaine, une tendance éco-responsable ». Et c'est elle, la journaliste, qui signe ce texte-là. Elle s'appelle Justine Dubrulle. Merci beaucoup, Justine.
Oui, merci.
Merci.
Peut contenir des infos.
Dans un moment, nous allons recevoir M. Michel Gébrac, il est professeur émérite au département des sciences de la Terre et de l'atmosphère à l'UQAM, l'Université du Québec à Montréal. Il est auteur de plusieurs livres. Il a, entre autres, signé récemment un essai sur les métaux et leur incidence ou leur importance dans la géopolitique à travers le monde. Mais auparavant, on peut vous rappeler que oui, vous écoutez cette émission-ci à la radio, évidemment, d'une semaine à l'autre, mais que vous pouvez également nous écouter sur le web, de différentes façons, en rattrapage, entre autres choses, sur le site web de l'Alliance des radios communautaires du Canada en visitant le radio-rfa.com. L'émission joue en primeur à la radio, mais la semaine suivante, elle est en rattrapage, en outre sur radio-rfa.com, aussi sur nosradios.ca. C'est une plateforme où vous allez retrouver l'ensemble des radios membres de l'Alliance des radios communautaires du Canada. Et si vous allez dans la section balado, vous voyez le petit menu en haut, et vous allez trouver là tous les épisodes, les plus récents comme des épisodes antérieurs de « Peut contenir des infos ». Et nous sommes également présents sur quelques plateformes de balado-diffusion en ligne. Je pense entre autres à YouTube Music, où vous allez retrouver notre émission d'une semaine à l'autre. Je pense également à TuneIn Radio. Hein, vous ne saviez peut-être pas ça, mais TuneIn, il y a la radio là-dessus, mais il y a également certains épisodes de balado-diffusion. Donc, promenez-vous un peu sur Internet ou tapez « Peut contenir des infos » et vous allez très certainement nous trouver en rattrapage d'une semaine à l'autre. On s'arrête pour une pause publicitaire ou le temps de s'identifier à tout le moins. Et puis, nous revenons de l'autre côté avec une deuxième entrevue dans cette émission-là. Nous allons rencontrer M. Michel Gébrac. Restez avec nous.
Avertissement.
Cette émission
peut contenir des infos.
On sait que les métaux ont toujours joué un rôle, on va dire, stratégique hein, dans nos sociétés, que ce soit l'or des pharaons de l'Égypte antique, entre autres, ou encore le fameux lithium là, qu'on trouve aujourd'hui dans les batteries des véhicules électriques, pour ne nommer que ceux-là.
C'est tellement fascinant, l'histoire des métaux, leur rôle à travers le temps, que là, aujourd'hui, Monsieur Michel Gébrac sera avec nous, un professeur émérite au département des sciences de la Terre et de l'atmosphère de l'UQAM, auteur de plusieurs livres aussi et connu pour ses travaux sur les terres rares, leur importance économique. Et il vient de signer un essai qui est paru il y a quelques jours en librairie. Ça s'intitule « Des mines et des empires, une saga géopolitique des ressources minérales ».
Alors, on va parler de métaux. On va parler surtout de la géopolitique autour des métaux avec l'auteur de cet essai. Alors, comment l'exploitation minière a-t-elle façonné les empires? J'irais même jusqu'à dire façonner notre monde. Monsieur Michel Gébrac est avec nous au téléphone. Bonjour, Monsieur Gébrac.
Bonjour.
Monsieur Gébrac, vous êtes un spécialiste, entre autres, dans l'exploration, l'exploitation des ressources minières, la géologie, les ressources minérales, les sciences de la Terre notamment. Ce sont des domaines qu'on n'associe pas forcément à l'histoire, mais qui sont quand même pourtant intimement liés à l'histoire. Là, parce que moi, quand j'ai lu ce livre-là, votre essai, j'ai eu l'impression toute fin utile que c'était presque l'histoire de l'humanité là, que vous racontez dans votre essai sur l'exploitation minière et puis la construction des empires. Est-ce que je me trompe en présentant votre livre à toute fin utile comme un livre d'histoire?
Oui, c'est essentiellement ça. En fait, pour moi, c'était surtout un livre de mise en contexte parce que moi, au démarrage, je suis géologue et un géologue, son métier, c'est de découvrir des mines. Et on a l'impression que on trouve des mines en allant sur le terrain, en faisant de la science, avec différentes technologies. Puis quand on regarde où est-ce qu'elles sont, les mines, elles sont pas n'importe où et elles sont en fait très reliées à des éléments beaucoup plus larges que des technologies. Hein. Elles sont liées en fait à des effets de géopolitique. Elles sont toujours aux marges en fait des empires. Et en fait, c'est la question que je me suis posée. Pourquoi donc sont-elles aux marges des empires? Et c'est à quoi ce livre essaie de répondre.
Et Monsieur Gébrec, vous présentez votre ouvrage comme une saga géopolitique. On sait qu'entre faire, par exemple, des petites pointes de flèches en silex ou allumer des feux avec de la pyrite, puis ensuite créer des bijoux et commercer avec de l'or, il y a toute une différence. Est-ce qu'on pourrait pointer du doigt le moment de l'histoire où les métaux ont vraiment commencé à jouer un rôle déterminant dans la construction des sociétés des empires?
Ah, c'est très clair. L'utilisation des métaux, en fait, commence vraiment avec la séparation des fonctions. En fait, au démarrage, quand on fait de la cueillette, hein, que ce soit de la cueillette agricole ou de la cueillette de pépites dans les rivières, par exemple, il n'y a pas vraiment de différenciation entre les gens. Hein. Tout le monde fait un peu ça. Et puis, à partir du moment où il commence à y avoir des agglomérations, là, il y a une séparation des fonctions. Et séparation des fonctions, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont faire de l'agriculture, il y a des gens qui vont faire de la poterie, puis il y a des gens qui vont chercher des métaux, exploiter des métaux. Donc c'est vraiment à ce moment-là, à l'aube de la civilisation, on parle de 7000 ans avant Jésus-Christ, qu'on a cette séparation des fonctions, et donc on commence à avoir, on pourrait dire, des mineurs. Alors au début, évidemment, ils exploitent en fait, ils exploitent des premiers métaux, et pendant très très longtemps, il faut bien se rendre compte que depuis la plus haute antiquité, jusque, je dirais, la fin du Moyen-Âge, on exploite toujours les mêmes métaux. On exploite toujours le cuivre, l'argent, le plomb, l'or, le fer. C'est presque tout le temps les mêmes. Et puis, c'est à partir du moment où on arrive avec la Renaissance, qu'on commence à trouver de nouveaux métaux, que là, ça va se différencier jusqu'à aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui, on est sur quasiment tous les métaux du tableau périodique de Mendeleïev qui sont exploités.
Monsieur Gébrec, peu importe l'endroit où on porte notre regard là, sur la surface du globe, j'ai l'impression qu'il n'y a aucune société qui a échappé au rôle déterminant des métaux dans son histoire. Mais est-ce qu'il y a des endroits à travers le monde où on peut dire que les métaux ont joué un rôle, on va dire, plus grand là, ou plus important que d'autres endroits à travers le globe? Pour vous, est-ce que c'est, par exemple, la conquête des Amériques? Est-ce que c'est le commerce qui a commencé à s'établir avec l'Orient? Quel est l'endroit dans le monde où, on va dire, les métaux ont joué un rôle le plus déterminant? Et est-ce que ça existe, d'abord?
Oui, les métaux ont joué toujours un rôle essentiel parce que il faut bien se rendre compte que les métaux, c'est d'abord la guerre. Hein. Il faut se rendre compte que le fer, le cuivre, tout ça, c'était des outils de la guerre. Et puis également pour le quotidien, hein, puisque pendant longtemps, les pots, tout ça, ça a été les métaux. Alors, il faut bien voir qu'il y a deux types d'empires. Il y a les empires qui sont terrestres, hein, ceux qui sont au sol. Là, la Chine, par exemple, c'est un empire essentiellement terrestre. Hein. Et puis, il y a les empires qui sont, on dit thalassiques, pour dire qu'ils sont liés à l'océan. Alors, ceux-là, ils voient beaucoup plus loin, ils regardent beaucoup plus loin. Le premier empire thalassique, c'était la Phénicie, hein, le Liban actuel, ils regardaient toute la Méditerranée. Et puis, donc, ils allaient chercher des métaux en Espagne, en Grèce. Et puis, il y avait les autres qui étaient donc continentaux. Et ça a été donc c'est la Chine depuis toujours, mais également la Russie, qui sont des empires dans lesquels ils vont chercher du métaux. Alors d'abord aux frontières de leur monde. Donc les frontières de leur monde, souvent, c'est des montagnes. Puis ça tombe bien pour la géologie, les montagnes, c'est super pour les métaux. Donc les empires sont allés chercher leurs besoins toujours aux limites. Et c'est fascinant, si vous regardez une carte du monde, des images qui ont été faites par les astronautes là, de la Terre, on voit toujours où sont les lumières. Hein, vous avez vu, toute France, tout le monde a vu ces images-là de la Terre avec des petites lumières. Puis vous regardez où sont les mines. Ben, c'est pas compliqué. Les mines sont à l'endroit où des lumières s'arrêtent. Au moment où il n'y a plus de lumière, on reste dans la marge du monde. Vous prenez le Québec, vous prenez le Canada, vous voyez bien, on est la marge des États-Unis. Hein, à New York, San Francisco, ça brille de tout mille feux, là, Vancouver, pareil. Et où est-ce qu'on trouve des mines? Eh ben, au nord de ces zones-là, où dans l'intérieur des États-Unis, là où il n'y a pas de ville. Donc, il y a vraiment une distribution qui est très claire de ce qu'on appelle des marges métalliques, hein, des frontières minières, si vous voulez, qui sont les zones. Alors, c'est des frontières dynamiques, hein, elles bougent. Pour prendre l'exemple du Canada, ça a commencé au Grand Lac, et puis ça se prolonge vers le nord. Tout lentement, hein, ça a pris 200 ans pour développer, et puis c'est pas fini.
Monsieur Gébrec, votre livre qui va très loin dans l'histoire, qui nous emmène dans toute cette histoire-là. Puis on s'approche aussi dans votre livre, par contre, aussi très proche de notre époque, même qu'on la dépasse des fois, vous nous projetez vers le futur. Et ma question serait, jusqu'où va aller l'appétit de l'homme pour les métaux? Parce qu'on a l'impression que son appétit est insatiable. Vous parlez même de l'idée d'avoir à un moment donné des lois foncières pour les corps célestes, parce qu'il y a des métaux dans l'espace.
Ouais. C'est l'une des idées de la frontière de l'humanité, mais on a avant d'aller là... On va d'abord se contenter de trouver sur Terre. Non, je dirais la grande nouveauté, hein, ce que les gens ont souvent appelé l'anthropocène, hein, c'est que on arrive un peu aux limites de notre territoire. Mais les zones qui sont vierges, on avait des stocks de zones vierges. Mais nos zones vierges aujourd'hui, c'est d'abord des peuples premiers hein, qui habitent. Il n'y a pas de zone vraiment vierge. Et puis, de l'autre part, maintenant, on a pris conscience qu'il faut qu'on garde des espaces naturels, des espaces qui soient préservés, je dirais, de l'empreinte humaine trop forte. Ça date de la fin du 19e siècle. Hein. Yellowstone, hein, les Américains qui commencent à protéger du territoire. Alors donc, on va se retrouver vraiment avec une responsabilité de savoir qu'est-ce qu'on protège et qu'est-ce qu'on exploite, parce qu'on a besoin d'exploiter. La population, elle augmente, les gens, ils ont besoin de services, hein. Je veux dire, il va faire de plus en plus chaud, on aura besoin de climatiseurs. Donc, je veux dire, on va se retrouver dans une situation où à la fois les besoins en métaux augmentent et en même temps, bah, notre terre, on commence à avoir des limites. Donc, vous voyez que c'est un vrai enjeu pour notre siècle.
Monsieur Gébrec, ça fait suite un peu à la question de mon collègue et vous ne parlez pas forcément de ça, là, ou enfin pas d'aussi loin d'où je vais aller, mais c'est peut-être même une question un peu rhétorique, mais j'ai l'impression à la lecture de votre essai avec ce que vous venez de nous dire que notre appétit pour les métaux, dont les terres rares, là, par exemple, ça pourrait causer la fin de l'humanité de la même façon que ça a sonné la fin de certains empires. Est-ce que j'exagère en disant ça, que peut-être que les métaux vont causer notre perte dans une certaine mesure?
Non, j'y crois pas du tout. Non, je pense pas du tout. C'est au contraire, les métaux, c'est plutôt, faut les prendre plutôt comme des outils. Hein.
Okay.
Regardez, on se parle au téléphone. Là, s'il n'y a pas de métaux, on n'aurait pas de téléphone. Hein. Donc, uh-huh. on est. Si vous faites le bilan, c'est un appui à l'humanité. On a même besoin de métaux pour la santé. Hein. Je veux dire, on l'a vu. On a besoin d'argent, on a besoin de cuivre. Enfin, je veux dire, donc on a les métaux sont utiles d'abord hein, à l'humanité parce que ce sont ses instruments favoris. Est-ce que ça peut conduire à la perte de l'humanité? Ça crée des conflits. Ça peut créer des conflits un peu partout. Mmh. Et je dirais qu'on est un peu bavette là-dessus parce qu'on n'a pas encore compris qu'il fallait plus se parler pour résoudre les conflits que de se tirer dessus. Mais, je dirais que si on fait des progrès un peu dans la gouvernance mondiale, si on arrive à comprendre que oui, il y a des enjeux qui sont difficiles à résoudre, mais ça ira mieux en se parlant, on peut y arriver. On a des éléments comme ceci, on voit que dans plusieurs pays, on a réussi à faire des accords, on a réussi à partager le territoire entre les différentes fonctions du territoire. Mais on est très loin de ça, très loin de ça. Et je dirais qu'on est, vous prenez l'Afrique par exemple, vous prenez l'Asie, on est toujours dans une zone dans laquelle il y a des conflits à toutes les frontières parce que c'est un besoin, c'est une source de richesse. Ce sont donc des enjeux politiques importants.
Et avec toutes les politiques environnementales qu'on a maintenant, est-ce que ça pourrait changer l'histoire de l'industrie minière, de la géopolitique des métaux? Et si oui, avec nos nouvelles politiques environnementales, de quelle façon ça va changer ça?
Ce qui a beaucoup changé, c'est le fait qu'avant, on utilisait les métaux bruts. Hein. En gros, si vous voulez, vous aviez du cuivre, vous faites des casseroles, ça prenait pas un gros boulot. Okay. Aujourd'hui, vous avez du cuivre, pour faire un téléphone, c'est drôlement compliqué. Le cuivre en question, il va faire 3 fois le tour du monde, aller au Japon, aller en Corée, en Chine, retourner en Amérique, parce qu'on a ce qu'on appelle des chaînes de valeur, des chaînes de production. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la mine toute seule n'a pas beaucoup de valeur. Ce qui est intéressant dans la mine, c'est la mine et la transformation. C'est là où il y a de la valeur ajoutée. Prenez le cas des batteries au Canada, hein, je dirais de Windsor à Québec, dans un corridor, on voit bien que la richesse métallique, toute seule, elle ne suffit pas. Alors c'est ça qui change. Ce qui change, c'est qu'il faut considérer les métaux non plus comme un élément de richesse seule, mais comme un élément de démarrage d'une industrie. Par exemple, pour donner un exemple, l'industrie minière, quand il y a un emploi dans l'industrie minière, il y en a 2 ou 3 en ville, pour les traitements et la fabrication. Donc, c'est plus intégré. C'est nécessaire, parce qu'il y a besoin de métaux au démarrage, mais il faut l'intégrer à l'ensemble. Et les enjeux environnementaux, bien, sont plus importants, parce qu'ils concernent plus de monde, tout simplement.
Entrevue très instructive et convaincue que les gens qui nous écoutent vont prendre beaucoup de plaisir à lire ce livre-là, un ouvrage qui a pour titre « Des mines et des empires » et le sous-titre c'est « Une saga géopolitique des ressources minérales ». Donc, c'est vous dire, hein, ça couvre pas mal de choses, ça couvre les métaux, mais ça couvre aussi tout notre monde dans une certaine mesure. C'est un livre qui est paru il y a quelques jours aux éditions Multimonde. C'est un essai, ma foi, très instructif. Écoutez, c'est quasiment un livre d'histoire. Moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à lire ça. Monsieur Michel Gébrec qui est avec nous au téléphone pour nous parler de son livre. Monsieur Gébrec, merci beaucoup.
Merci beaucoup. À la prochaine.
Peut contenir des infos.
Ben, c'est la dernière portion de l'émission « Peut contenir des infos ». On a parlé d'apiculture urbaine, on a parlé tantôt de l'eau, les oiseaux, et même été question de métaux.
Oui, avec Monsieur Gébrec.
Allons-y, allons-y avec... les Canadiens de Montréal, tu vas prendre tout le bloc pour nous parler de l'histoire de cette fascinante équipe de sport professionnel.
Qui, on l'espère, va arriver à aller récolter cette 25e Coupe Stanley qui attend depuis si longtemps? Ben oui, puis on avait les espoirs, là, c'est ça malheureusement, hein, les Canadiens qui annoncent cette année là qu'on a le grand joueur Patrick Laine qui rentre dans l'équipe et tout ça, et dans le match préparatoire, qui se blesse contre les Maple Leafs de Toronto, les deux genoux, là, ça fait « ow ». Et non, c'est très, très décevant ça, malheureusement. Et je savais déjà que j'allais te parler des Canadiens de Montréal avant d'apprendre cette... blessure, ben j'ai décidé d'en parler quand même. Mais mes ardeurs se sont beaucoup refroidies par rapport à l'espoir d'une coupe. Mais on sait jamais, là, on va voir Patrick Laine s'il reviendra au jeu éventuellement, mais ça se pourrait même que sa carrière soit finie, malheureusement.
Te dis comment je suis pas les équipes de sport professionnel et le Canadien, entre autres. J'avais vu que ça passait dans l'actualité, mais je savais pas à quel point c'était grave, là.
Déchirure ligament antérieur ou quelque chose comme ça, là, dans le genou, c'est assez, assez grave. Mais c'est ça, on n'avait jamais eu de super marqueur de but. En haut de 40 buts, il n'y en a pas eu depuis Stéphane Richer. Ça fait un petit bail.
Oui, ça fait quand même quelques années, effectivement. Là.
Hey, mais commencez à parler de cette grande équipe des Canadiens de Montréal que je suis depuis ma grande jeunesse. J'allais dire mes tout débuts, mais non, mes débuts dans la vie.
Depuis la plus tendre enfance.
Ah oui, parce que Coupe Stanley contre les Flames de Calgary en 1986, là, j'écoutais ça et je prenais pour Patrick Roy d'aplomb. Là. J'étais un petit garçon à l'époque, mais c'était déjà les débuts de cette grande histoire d'amour entre les Canadiens de Montréal et moi. Et le nom officiel des Canadiens, en fait, hein, y en a beaucoup qui disent « le Canadien ». Puis moi, souvent, quand j'étais jeune, je disais « ben pourquoi c'est les Canadiens de Montréal ?» Mais le vrai nom, le nom officiel, c'est vraiment « le club de hockey canadien au singulier incorporé hein, ». C'est le club de hockey canadien. Mais les Canadiens disputent leur match donc au Centre Bell, qui est leur nouveau nom, qui a été connu sous le nom de Centre Molson jusqu'en 2002. Et avant 1996, c'était Forum de Montréal. Et ça, le Forum, c'est le temple du hockey.
Oui.
Et ils ont reçu leurs adversaires-là au Forum pendant 7 décennies. Ils ont remporté 22 de leurs 24 Coupes Stanley dans le Forum. Fondé les Canadiens en 1909, cette merveilleuse équipe de hockey, la plus vieille équipe de hockey au monde, toujours en activité, mais sans aucune interruption. Parce qu'il y a des équipes qui auraient été plus vieilles, qui sont revenues. Tu sais, Sénateurs d'Ottawa, ça a existé,
oui,
c'est revenu.
C'est vrai.
Mais sans aucune interruption, les Canadiens sont la plus vieille équipe de hockey au monde. Au début, là, c'était les Arénas de Toronto, les Sénateurs d'Ottawa, les Wanderers de Montréal et les Canadiens de Montréal, les équipes fondatrices de la Ligue. Et là, avec leurs 24 Coupes Stanley, les Canadiens, c'est l'équipe la plus titrée de toute la Ligue nationale. Ça, c'est bien certain. Et il y a seulement une équipe, tout sport confondu, hein, qui a plus de championnats que les Canadiens de Montréal. Si je te demandais d'essayer de deviner, est-ce que tu sais?
Je dirais probablement une équipe de baseball,
oui,
probablement à New York, les Giants.
Ah, ben oui. Ben non, les Yankees.
Ah, les Yankees, oui, ben oui, les Yankees, ben effectivement. Oui.
De tous les temps. Et le record de 5 Coupes Stanley consécutives pour les Canadiens, là, ça c'était de 1956 à 1960, c'était un record de Coupe Stanley. Ils ont été près de l'égaler de 76 à 79 Canadiens quand ils en ont gagné 4. Comme je te dis, il y a une seule autre équipe dans les équipes de la Ligue nationale, les Islanders de New York, qui en ont remporté 4 aussi de suite. C'était entre 1980 et 1983. Il y avait
Michael Bossy.
Mike Bossy.
C'est ce que j'allais dire, Michael Bossy, oui, c'est ça.
Ah oui, pour un gars qui ne connaît pas le hockey.
Ben, je suis ça un petit peu. J'ai des connaissances générales. Là. Ça, ouais. Je ne suis pas très, très pointu. Mettons que je ne ferais pas RDS demain matin. Là.
Non, mais les affaires des débuts des années 80, on dirait que ça te sonne des cloches. Hein? On dirait des années de Mike Bossy. Et puis, les Canadiens de Montréal, donc, c'est ça, je te disais, tout sport confondu, seulement devancé par les Yankees de New York, la Ligue majeure de baseball, parce que 24 championnats, c'est quelque chose.
Oui.
Et il y a quelque chose qui était très intéressant au début des Canadiens, un règlement de décembre 1911 qui stipulait que les Canadiens pouvaient employer que des joueurs francophones.
Ah oui, hein?
Ben oui, puis ils ont obtenu, les Canadiens, le 11 avril 1925, le premier droit sur tout joueur canadien-français qui se trouvait sur le territoire de la Ligue. C'est les Canadiens qui avaient le droit au départ de l'avoir en premier.
OK.
Pour rien que, c'est ça, ils employaient des francophones et c'était réputé à travers la Ligue que les francophones étaient forts au hockey. Là.
Fait que ça veut dire que si ce règlement-là avait encore été en opération ou avait encore existé à l'époque de Mario Lemieux, par exemple, Mario Lemieux aurait peut-être joué pour le Canadien de Montréal. OK, wow.
Ben oui, il avait tous les droits. Puis au début de sa dernière saison, l'Association nationale de hockey, là, au début, il y avait 5 équipes en plus des Canadiens, là, les Wanderers, Sénateurs d'Ottawa, les Bulldogs de Québec et les Blue Shirts de Toronto. Puis il y avait aussi une équipe militaire qui était nommée le 228e bataillon de Toronto. Ça, c'était dans l'Association nationale de hockey. Puis la Ligue nationale de hockey a été créée en 1917, le 26 novembre à Montréal. Pendant les 25 premières années de la Ligue, il y a eu beaucoup d'équipes, un nombre variable d'équipes, jusqu'à rassembler 10 équipes en 1926, entre 1926 et 1931. Il y a eu la Grande Dépression de 1929 qui a affaibli les finances des franchises de la Ligue nationale. Et puis là, il y a plein d'équipes qui arrêtaient. Puis finalement, en 1942, il restait plus que 6 équipes et ça a été ça pendant 25 ans. Depuis 1967, là, la Ligue nationale est régulièrement en expansion. Puis on est rendu à 32 équipes avec la petite dernière que j'ai rajoutée, là, les Kraken de Seattle. Et puis au départ, ce qu'on appelle les Original Six, qui étaient les 6 équipes qui ont duré 25 ans, c'est pas vraiment les originales, mais tu vois, c'est ceux qu'on a appelés les Original Six. 1942 à 1967, c'était les Canadiens de Montréal, Maple Leafs de Toronto, Bruins de Boston, Red Wings de Détroit, Rangers de New York et Blackhawks de Chicago. Ces fameuses 6 équipes original. Puis Canadien a vu ces francophones, ces hordes de francophones dominer les autres équipes. Vitesse, habilité, les Français étaient vraiment bons. Ben, français, francophones.
Ouais, les Canadiens français ou les francophones, ouais, c'est ça.
Exact. Le hockey sur glace, c'était une des rares portes qu'on offrait aux francophones de l'époque qui leur permettait un peu de s'affranchir du statut de citoyen de seconde classe. Puis là, de s'émanciper, de devenir une grande vedette ou faire de l'argent. Hein. On a vu, par exemple, dans les bons films qui ont sorti, comme sur le Rocket, là, Maurice Richard avec Roy Dupuis. Ah, c'est quelque chose, ça, comme film. Un film que j'ai écouté plusieurs fois dans ma vie et que je vais réécouter encore. Quand ça fait longtemps, je le réécoute.
Absolument. Puis l'histoire est tellement inspirante à part de ça. Hein.
Vraiment bon, vraiment bon. Et Maurice Richard, que j'ai rencontré quand j'étais jeune.
Moi aussi, j'ai rencontré Maurice Richard. J'ai son autographe à part de ça. Bien content de ça.
Eh oui, c'était du ski alpin. Moi, il était ami avec une famille. Un de mes amis m'avait emmené faire du ski alpin la fin de semaine. Puis Maurice Richard était là en ski alpin avec nous. Je ne l'ai pas parlé beaucoup, mais je l'ai croisé. Je l'ai croisé sur les pentes. Mais il y a eu les mythiques Flying Frenchmen. Hein, les Canadiens étaient remplis de super bons joueurs francophones. À part là, partout dans la Ligue nationale, ça parlait des Flying Frenchmen qui ont été redoutés jusqu'au jour où le privilège d'obtenir le premier choix québécois à chaque début de saison a été retiré aux Canadiens. Ça, c'est dans les années 1970 qu'ils ont perdu ce fameux privilège.
Hey, tu parles des Flying Frenchmen, puis ça sonne quasiment comme une équipe de lutte. Là.
Ouais.
Les Flying Frenchmen.
Hey, oui, ouais. Mais des Georges Vézina, Maurice Richard, le Rocket, Jean Béliveau, dit aussi le Gros Bill, Yvan Cournoyer, le Démon Blond, Guy Lafleur, le Big Three, qui était Guy Lapointe, Larry Robinson, Serge Savard. Bon, tout ça, c'est des grands Flying Frenchmen. Maurice Richard, là, faut y revenir, un des joueurs les plus marquants de tout le hockey. Aux États-Unis, on parle de lui comme le Babe Ruth de son sport. Il a été adulé dans toutes les villes de hockey nord-américaines, Maurice Richard. Ça a été tout un phénomène. Et puis, aux côtés de Elmer Lack et Toe Blake, la glorieuse punchline, la plus célèbre, spectaculaire ligne d'attaque de toute la Ligue nationale, tu sais, de tous les temps. Là. C'est pourquoi les Canadiens sont encore considérés aujourd'hui comme la plus grande franchise. Et il y avait eu une spectaculaire innovation aussi qui est portée par les Canadiens, qu'il faut que je te parle, le port du masque.
Ben
ça,
oui!
Ça revient, ça, vraiment à Jacques Plante, fin des années 50. Là où les Canadiens ont gagné 5 Coupes Stanley consécutives, là, et c'était les 5 dernières années de Maurice Richard aussi, soit dit en passant, ces années-là. Et lui, Jacques Plante, a été considéré comme un des meilleurs gardiens de tous les temps. Il a révolutionné la position de gardien de but avec notamment les sorties hors du filet. Il y avait aussi la relance du jeu vers l'avant. Ça nous vient de Jacques Plante, couverture des angles. Et il détient toujours le record de victoire d'équipe qu'il a obtenu pendant ses 10 saisons en Ligue nationale. Et ce qui a fait le plus sa marque, c'est le port du masque.
Pensez-y 2 secondes. Là. OK, il n'y avait pas les lancers frappés là, à cette époque-là là, dans les règlements. Tu pouvais... Mais la rondelle, elle voyageait quand même pas pire, là, oui. Même s'il n'y avait pas de lancers frappés. Fallait être un peu, on va dire, kamikaze pour rester oui. Poli ses bords, pour s'installer devant un filet et recevoir à longueur de soirée des rondelles lancées par des gars comme des Maurice Richard et compagnie, là, quoi qu'ils jouaient pour le Canadien et pas contre le Canadien. Mais comprenez que Jacques Plante, quand il est arrivé avec son masque, il devait commencer à être écœuré un petit peu, là, hey. Tu sais, dans une certaine mesure.
Ben, il venait de se faire mal. Hein. En 1959, il y avait eu un tir foudroyant de Andy Badgate qui avait fracturé le nez de Jacques Plante. Hey. Là, il y a eu beaucoup de points de suture. Puis à cette époque-là, il n'y avait pas de masque nulle part. Ouais. On pensait que ça nuirait à la vision des gardiens de but de porter un masque. Puis là, il y a seulement Jacques Plante, lui, il l'utilisait pendant les séances d'entraînement. Il l'avait, mais il fallait qu'il l'enlève durant la partie. Okay. Puis à sa sortie de la clinique, quand il avait eu ses points de suture et tout ça par Badgate, eh bien, il a demandé à son entraîneur, Toe Blake, il a dit qui reviendrait, mais sur la condition, il dit « je vais revenir au jeu, mais ça me prend mon masque ». Et puis là, les 11 rencontres suivantes, ben, il ne l'a jamais enlevé. Et puis finalement, il a remporté la Coupe Stanley avec son masque. Et puis c'est là que les rumeurs comme quoi ça nuisait à la vision du jeu, ben c'est tombé parce que Jacques Plante est allé chercher une Coupe Stanley avec son masque. Fait qu'on, on s'entend que... Bon, puis par la suite, plus jamais, on lui a demandé d'enlever son masque à Jacques Plante. Les adversaires étaient comme intimidés même, puis c'est là que la légende était née. Là. Jacques Plante avec son masque, il faisait comme peur aux autres équipes.
Je sais pas si t'en as encore beaucoup. Il nous reste à peu près comme 2 minutes, là, grosso modo.
Ah, ben on va aller vite, vite. On va nommer que Guy Lafleur, tout premier joueur de la Ligue nationale, a marqué plus de 50 buts en une saison. On espère que Patrick Laine aurait pu le faire, mais bon, on verra s'il y a un jour. Et puis, durant 6 années consécutives, attention, wow. Guy Lafleur a marqué plus de 50 buts. Il a été le pilier de l'équipe de Montréal, remporté 4 Coupes Stanley d'affilée entre 75 et 79. Et il faut dire, Patrick Roy, 1985-86, quand il est allé chercher la Coupe, toute la pression était sur son dos et il l'a soutenu avec brio. Il a étonné tout le monde, Patrick Roy. Il a porté son équipe jusqu'aux éliminatoires dans cette saison. Il a remporté la Coupe Stanley, couronné joueur par excellence des séries, remise du trophée Conn Smythe, âgé de 20 ans, Patrick Roy, quand il l'a fait. Un des plus jeunes joueurs de l'histoire à récolter cet honneur. C'est sûr que Carey Price, il a été là beaucoup pour quelque chose aussi. Carey Price, t'en as entendu parler.
Oui, ben oui.
360 victoires, 43 en série, c'est lui qui en a le plus. Donc, Carey Price a quand même tout un record. Les plus anciennes rivalités de la Ligue nationale de hockey, ça date de la période des 6 équipes. La traditionnelle, c'est les Bruins de Boston. Et jamais une équipe a affronté autant un adversaire que les Bruins et les Canadiens dans toute l'histoire de la Ligue nationale. Ils se sont rencontrés plus de 700 fois en saison régulière et 160 fois en série. C'est les Canadiens qui mènent le débat dans les deux cas, avec quand même un bon total au début de la carrière, sauf qu'entre 1946 et 87, les Bruins et les Canadiens se sont rencontrés 18 fois en série pour autant de victoires pour l'équipe de Montréal. Et les Canadiens ont remporté 7 de leurs 24 Coupes Stanley contre les Bruins. En 88, après 18 défaites consécutives en séries éliminatoires contre les Canadiens, les Bruins ont gagné pour la première fois depuis 45 ans. Et depuis cette victoire-là, les débats se sont équilibrés. Les Bruins ont même pris les devants un petit peu. Alors, hey, pour terminer, là, dire que les Canadiens ont 24 Coupes Stanley, mais sont suivis seulement par les Maple Leafs qui en ont 13,
oh.
Les Red Wings qui en ont 11, les Bruins et les Blackhawks qui en ont 6 chacune. Et les Canadiens ont remporté leur dernière coupe contre les Kings de Los Angeles, qui étaient avec Wayne Gretzky à l'époque en 93. C'était le 100e anniversaire de la Coupe Stanley, quand les Canadiens ont gagné leur dernière coupe. Hey. On a fait le tour vite, là, mais Canadiens de Montréal, une grande équipe, et j'espère que la 25e Coupe Stanley s'en vient d'ici 5 ans.
Oui, on a fait le tour d'une tradition, comme on peut dire, une grande équipe, le Canadien de Montréal. Sébastien Boucher, merci pour cette autre émission.
Ah, ça fait plaisir.
Et on l'a encore une fois bien apprécié avec tous les sujets qu'on a abordés. Puis on va se retrouver la semaine prochaine.
Bien, absolument. Ça va faire encore plaisir. Et puis on va encore avoir des sujets palpitants.
Salut, merci.